Radio République Indonesia, Service International, La Voix d'Indonésie.
Informing, connecting, dignifying.
Radio République Indonesia, Service International, La Voix d'Indonésie, présente des nouvelles, des informations actuelles et des divertissements. Vous pouvez écouter notre émission tous les jours sur les fréquences ondes courtes de 15 150, 9 525 et 11 785 kHz. Le programme de l'émission en français ou écouter l'audio sur demande sur www.voi.co.id.
Bonsoir, chers amis, vous écoutez La Voix de l'Indonésie diffusée depuis Jakarta. Comme d'habitude, nous allons commencer notre émission par le journal suivi de commentaires. Et après, nous allons également présenter l'histoire d'aujourd'hui et la mise au point. La rubrique suivante, comme d'habitude, nous allons présenter le magazine culturel et ensuite l'Indonésie en couleur. Avant de terminer cette émission, vous allez écouter des chansons indonésiennes. Voilà notre programme pour ce soir. Écoutons maintenant le journal suivi de commentaires.
La Voix de l'Indonésie, les informations.
Bonsoir à tous, bienvenue dans le programme Le Journal. Nous commençons avec les titres. La Russie condamne fermement les essais d'armes nucléaires par la Corée du Nord. Rencontrant le président, certains praticiens de l'enseignement supérieur sont encouragés d'être en mesure de répondre aux défis de l'époque. Le président présentait le soutien après avoir accepté le rapport sur la performance indonésienne dans les SEA Games. La Russie espère la bonne préparation de la visite de Vladimir Poutine en Indonésie. Le ministre du Commerce demande à l'Inde de réduire la taxe d'importation sur l'huile de palme. Et enfin, pour augmenter les exportations nationales, le ministère du Commerce et l'Indonésie Exim Bank ont signé un protocole d'accord. Voici le journal complet. Le 23 août 2017, l'ambassade de Russie pour l'Indonésie a tenu une conférence de presse pour discuter de diverses questions bilatérales entre la Russie et l'Indonésie. En plus des principales questions de coopération entre les deux pays, dans la conférence, on a également discuté des questions internationales. La conférence a été dirigée par l'ambassadeur de Russie en Indonésie. L'un des sujets discutés concernant les essais d'armes nucléaires par la Corée du Nord récemment. L'ambassadeur de Russie en Indonésie, Michael Yurievich Galuzan, condamne fermement les essais d'armes nucléaires car ils peuvent déclencher une intervention pour la résolution de la paix mondiale initiée par le Conseil de sécurité des Nations Unies. Notre position est très claire et très responsable. Tout d'abord, nous condamnons fermement les essais de missiles et les essais nucléaires de la Corée du Nord. Et ces activités doivent être résiliées conformément aux résolutions du Conseil de sécurité des Nations Unies. Selon Michael Galuzan, ce problème peut être une provocation des tensions militaires qui conduira à un conflit international. La Russie critique les armes nucléaires de la Corée du Nord, mais elle a l'initiative de faire une approche diplomatique afin de prévenir des choses qui peuvent provoquer des conflits inutiles. Le ministre de la Recherche, Technologie et Enseignement supérieur, M. Nasir, avec un certain nombre de praticiens de l'éducation qui sont regroupés de l'Assemblée du recteur des universités d'État, le Forum du recteur indonésien et de l'Association des universités privées d'Indonésie, mercredi après-midi, ont rencontré le président Joko Widodo au Palais d'État de Jakarta. Après avoir rencontré le président, le ministre M. Nasir a affirmé que cette réunion était faite liée aux efforts à développer l'enseignement supérieur en Indonésie et à anticiper le développement de l'éducation. Lors de la réunion, le ministre Nasir a déclaré « Le président Joko Widodo a donné des directives pour que le monde de l'éducation de l'Indonésie puisse répondre à tous les développements. » Selon lui, le monde de l'éducation en Indonésie doit subir des changements fondamentaux, y compris dans les domaines de l'enseignement et de l'apprentissage, de l'octroi de licence et de la réglementation du monde éducatif.
Bapak Presiden telah memberikan arahan yaitu
Monsieur le Président a donné une direction, à savoir, nous voulons répondre à un changement rapide. Les collègues ne peuvent plus regarder nos affaires comme d'habitude, si bien que nous devons répondre plus rapidement les développements dans le monde avec les changements dès que possible. Donc, quel type de processus d'éducation, quel genre de processus d'octroi de licence, c'est ce que nous devons faire, la réforme. Le ministre de la Recherche, la Technologie et l'Enseignement supérieur, M. Nasir, a déclaré, bien que sa parti ait mis en place certains changements dans le monde de l'éducation en Indonésie, mais selon lui, il devrait être fait plus profondeur dans les régions de l'Indonésie. M. Nasir a mentionné que l'une des choses qui ont mis l'accent sur la conversation est le développement des programmes d'études dans les universités en Indonésie. Selon lui, les universités en Indonésie aujourd'hui devraient être capables de développer le monde de l'éducation en organisant des programmes d'études qui peuvent répondre aux défis de l'ère actuelle, en plus de l'enseignement professionnel qui a fonctionné. Le ministre indonésien de la Jeunesse et des Sports, Imam Nahrawi, a rencontré le président indonésien Joko Widodo au Palais d'État mercredi le 23 août. Cette réunion a été soumise par le ministre Imam Nahrawi pour rapporter le développement de la participation de l'Indonésie aux Jeux d'Asie du Sud-Est 2017 en Malaisie. Au cours de la réunion, le ministre Imam Nahrawi a transmis les réalisations qui ont été atteintes par les athlètes indonésiens dans les Jeux d'Asie du Sud-Est jusqu'au cinquième jour depuis le début du 19 août. Jusqu'au cinquième jour, l'Indonésie occupe la cinquième position de la médaille de SEA Games avec 15 médailles d'or, 16 médailles d'argent et 28 médailles de bronze. En ce qui concerne de ces réalisations, selon le ministre Imam Nahrawi, le président a donné son soutien et sa motivation à chaque athlète pour s'efforcer d'obtenir la victoire dans tous les sports. Le président a donné son soutien et sa motivation avant que tous les athlètes d'Indonésie ne soient pas abandonnés et puissent faire mieux pour être les meilleurs. La médaille doit être réalisée d'une manière équitable et sportive, honnête et pleine de vigueur pour le drapeau rouge et blanc. Le ministre Imam Nahrawi a affirmé les réalisations du succès des athlètes indonésiens dans SEA Games 2017. La Malaisie est pleine de surprises. La surprise provient de plusieurs sports qui ont produit une médaille au-delà de la cible définie. La même surprise provenait également des sports qui sont ciblés auparavant à atteindre le maximum de points, mais ils ont échoué avec la réalisation de la médaille d'argent, comme dans les sports d'athlétisme. Mercredi, le 23 août 2017, l'ambassadeur de Russie-Indonésie, Michael Yurevich Galuzan, a tenu une conférence de presse à l'ambassade de Russie, Jakarta. À cette occasion, on a discuté des coopérations bilatérales entre la Russie et l'Indonésie, y compris des questions mondiales actuelles. En marge de la discussion des relations bilatérales, Michael Galuzan a dit que le président indonésien Joko Widodo a envoyé une invitation au président russe Vladimir Poutine via la ministre indonésienne des Affaires étrangères, Retno Marsudi, pour faire une visite d'État afin de discuter des relations russo-indonésiennes. Selon Michael Galuzan, la visite produira des accords bilatéraux liés à quelques questions telles que l'économie, la science, la technologie, la culture, la défense, la sécurité et humanitaire. Il souhaite que l'Indonésie puisse bien préparer cette visite pour obtenir le succès de la visite et les réunions bilatérales. La visite de haut niveau a besoin de bons préparatifs et profonds. Et nous espérons que la préparation peut être faite ensemble avec nos collègues et amis en Indonésie. J'espère que nous pouvons présenter un programme très utile, très important et très promoteur pour la réunion de nos présidents. Selon Michael Yurevich Galuzan, jusqu'à aujourd'hui, il ne peut pas dire la certitude de la date de la visite du président Vladimir Poutine en Indonésie, mais il a assuré à toutes les parties que la visite produira des percées et des accords qui profiteront aux deux pays. Le ministre du Commerce de la République d'Indonésie, Enggar Tias Tolukita, a déclaré que le gouvernement de l'Inde a augmenté récemment la taxe d'importation sur l'exportation de l'huile de palme de l'Indonésie jusqu'à 100%. ce pays a augmenté la taxe d'importation de la marchandise de 7,5% à 15%. Après l'ouverture du forum de consultation technique tenu mercredi le 23 août 2017 au ministère du Commerce, il expliquait que l'Indonésie jouit un grand excédent de commerce avec l'Inde. C'est pourquoi sa partie serait très prudente de répondre à l'augmentation de la taxe d'importation. Une réunion avec le ministère indien des industries d'alimentation transformée, Harsimrat Kaur Badal, mercredi le 23 août 2017, vise à faire valoir une objection à l'égard de la politique du gouvernement indien.
Nanti kan ada menteri India datang. Menteri urusan pangan.
Plus tard, il y aura le ministre indien des affaires alimentaires à venir. Nous parlons plus tard, nous transmettrons nos objections et leurs efforts dans le but de protéger le produit et nous devons faire l'approchement. Enggar Tiasto Lukita a expliqué, l'Indonésie a demandé que la taxe de l'exportation revienne à sa valeur initiale. La valeur du commerce de l'Indonésie avec l'Inde de janvier à mai 2017 soit 7,68 milliards dollars en hausse de, par rapport à la même période l'année dernière de 4,82 milliards dollars américains. De janvier à mai 2017, les exportations de l'Indonésie vers l'Inde s'élèvent à 5,95 milliards dollars américains et l'importation d'1,73 milliards dollars américains. Le secteur commercial de l'Indonésie s'améliore chaque année. Le directeur général du développement des exportations nationales du ministère du Commerce, Arlinda, a déclaré que les exportations non pétrolières et gazières de l'Indonésie au premier semestre de 2007 ont augmenté de 5,6% par rapport à la même période de l'année précédente. À l'ouverture du forum de consultation technique tenu au ministère du Commerce de Jakarta le mercredi 23 août 2017, Arlinda expliquait que la croissance était influencée par la performance de l'économie mondiale, notamment les pays partenaires du commerce indonésien. De plus, à travers diverses politiques, le gouvernement augmente toujours la compétitivité, la diversification du marché et les produits d'exportation. Le gouvernement continue de lancer diverses coopérations pour améliorer la compétitivité des produits d'exportation et d'encourager l'augmentation de nombre d'entrepreneurs orientés vers l'exportation, entre autres par la coopération avec l'Indonésie Exim Bank ou l'institution de financement des exportations d'Indonésie. Le protocole d'accord que nous avons signé couvre la facilitation du financement des exportations nationales qui se compose de financement, les garanties ou l'assurance pour les exportateurs, les activités pour augmenter la capacité des exportateurs, les activités pour le développement et la promotion des exportations pour les exportateurs et l'essence de données de l'information dans le cadre de la coopération du développement des exportations. Selon Arlinda, cette coopération sera réalisée par le programme de l'amélioration des exportations des petites et moyennes entreprises via la formation technique. En outre, Indonesia Exim Bank donnera également le soutien pour développer des produits d'exportation et élargir l'accès aux nouveaux marchés, notamment sur les marchés non traditionnels. Chers auditeurs, c'était le journal de la Voix de l'Indonésie à Jakarta. Chers auditeurs, voici donc le commentaire et pour le titre « Les changements dans les relations Indonésie-Vietnam ». Le secrétaire général du comité du Parti communiste du Vietnam, Nguyen Phu Trong, a commencé une visite officielle en Indonésie du 22 au 24 août. La première visite a été faite depuis que les deux pays ont établi cette relation de partenariat stratégique coïncidant avec la commémoration du 50e anniversaire de l'ASEAN. Il a une signification particulière et nouvelle dans la relation entre les deux pays dans tous les domaines. Le Vietnam et l'Indonésie ont établi des relations diplomatiques depuis le 30 décembre 1955. La relation d'amitié traditionnelle indo-vietnamienne a été établie sur une base solide par le président vietnamien Ho Chi Minh et le président indonésien Sukarno. Dans le cadre de l'ASEAN, le Vietnam et l'Indonésie ont beaucoup de similitudes, à savoir les membres de l'ASEAN, du Forum de coopération économique Asie-Pacifique, APEC, et de nombreuses autres organisations et forums régionaux et internationaux. Pour l'Indonésie, le Vietnam est un partenaire important et potentiel. D'autre part, le Vietnam considère le rôle et la position de l'Indonésie comme l'un des pays les plus influents de l'ASEAN. À ce jour, le Vietnam est le premier et unique pays de l'ASEAN à développer des relations de partenariat stratégique avec l'Indonésie. Cependant, au cours des dernières années, le nombre de navires vietnamiens et les pêcheurs qui ont fait de la pêche en mer et qui ont subi une collision avec le navire et les autorités indonésiennes ont augmenté. La raison en est que jusqu'à présent, il n'y avait pas de fixation sur la ligne de démarcation claire entre les deux pays. À l'heure actuelle, l'Indonésie et le Vietnam travaillent fort pour poursuivre un mécanisme complet pour résoudre ce problème. La visite officielle du secrétaire général Nguyen Phu Trong en Indonésie pourrait ouvrir une nouvelle phase des relations entre le Vietnam et l'Indonésie. Espérons que ce qui était bien établi jusqu'ici peut être gardé et amélioré par les deux parties. Chers auditeurs, c'était le commentaire pour ce soir.
Vous êtes toujours avec La Voix de l'Indonésie à Jakarta. Vous pouvez aussi nous écouter par Internet sur le site www.voi.co.id.
Chers auditeurs et auditrices du monde entier, voici le programme aujourd'hui dans l'histoire de la voix de l'Indonésie, l'édition le 24 août. On va commencer le 24 août 1911. Manuel de Arriaga, premier président de la République portugaise. Manuel de Arriaga est né le 8 juillet 1834 à Lisbonne. Il est partisan du mouvement républicain portugais. Marié et père de 6 enfants, il est élu en tant que président le 24 août 1911. Il est pouvoir lors de l'implication de son pays dans les Premières Guerres mondiales. Son mandat est marqué par sa vaine tentative de réunifier le Parti républicain. Il échoue également dans la question de la guerre et des problèmes économiques de Portugal. En 1915, Teófilo Braga est nommé président de la République à sa place. Manuel Arriaga décède le 5 mars 1917. On continue le 24 août 1912, l'Alaska devient un territoire des États-Unis. L'Alaska est l'état le plus étendu des États-Unis. À l'origine, il appartient à la Russie qui, le 7 en 1867, possède millions de dollars. La province est appelée département d'Alaska et placée sous la responsabilité de l'armée. En 1884, elle est qualifiée de district d'Alaska. Ce n'est que le 24 août 1912 qu'elle obtient le statut de territoire des États-Unis. Il faut attendre 1959 pour qu'elle devienne le 49e État des États-Unis. On termine le 24 août 2006. Pluton n'est plus une planète. L'Union astronomique internationale se rassemble à Prague et stature sur le sort de Pluton, apportant une nouvelle définition au terme de planète. Présidée par Catherine Cesarski, cette assemblée générale d'astrophysiciens a voté « Pluton n'est plus une planète du système solaire », découverte en 1930 par Clyde Tombaugh. L'ex-planète se compose essentiellement de glace, contrairement à ses sœurs faites de roches ou de races. De plus, elle suit une trajectoire très elliptique autour du Soleil, tandis que les autres tracent un parcours quasi circulaire. Il lui faut en effet près de 250 ans pour en faire le tour. Enfin, elle est trop peu massive pour être considérée comme une véritable planète. Pluton est donc abaissé au rang de simple naine. Le système solaire ne compte désormais plus que 8 planètes. Ces auditeurs, c'était l'histoire du studio ce soir, l'édition le 24 août. À demain.
Radio République Indonesia, Service International, La Voix d'Indonésie.
Informing, connecting, dignifying.
Radio République Indonesia, Service International, La Voix d'Indonésie présente des nouvelles, des informations actuelles et des divertissements.
Vous êtes toujours avec nous, Radio République Indonesia, Service International, La Voix d'Indonésie, sur les fréquences ondes courtes 15150, 9525 et 11785 kHz, le programme de l'émission en français. Vous pouvez aussi écouter nos émissions via l'Internet sur www.voi.co.id.
Mise au point sur les infos et événements quotidiens.
Bonjour, bonsoir, chers auditeurs. Vous écoutez maintenant La Voix d'Indonésie avec moi, Oudry, qui vous présente Mise au point d'aujourd'hui, intitulé pour la MEA, le plan de gouvernement provincial de Lampung pour la certification professionnelle aux travailleurs. Chers auditeurs, voici Mise au point. Le gouvernement provincial de Lampung a déclaré que toutes les professions ont empoché un certificat d'expertise. Ceci est une conséquence de la promulgation de la communauté économique de l'ASEAN, MEA. Pour cela, le gouvernement de la province de Lampung ciblera que toutes les professions seront certifiées. Et pour la réaliser, le gouvernement provincial de Lampung coopère avec le Conseil national de certification professionnelle, BNSP, ont tenu un atelier de diffusion, harmonisation de certification de compétences transsectorielles, se réfère au cadre de certification ASEAN, AQRF, à Bandar Lampung, vendredi. L'événement a été suivi par le chef de l'Agence de développement des ressources humaines de la province de Lampung, Fahrizal Darminto, le leader d'associations industrielles et professionnelles, les institutions de formation professionnelle et le leader d'organisateurs de SMA-SMK. Dans cet atelier, Fahrizal Darminto a dit « Si on voulait concurrencer au niveau régional de l'ASEAN, on doit avoir un certificat de la procédure correcte pour le traitement. Par exemple, les chips de banane étant les produits principaux des culinaires de Lampung, les chips de banane vendus doivent être produites par des travailleurs certifiés pour que la qualité et la santé soient garanties et puissent être compétitives à l'échelle mondiale. Il a dit que pour la continuation de promulgation de la MEA, on effectue les accords de reconnaissance mutuelle ARM à reconnaître mutuellement la profession dans chaque pays. Il existe plusieurs professions reconnues d'après ARM, telles que le tourisme, la comptabilité et l'ingénierie. Fahrizal Darminto s'attend au secteur agricole qui peut mapper les produits supérieurs afin que les travailleurs locaux et les produits concurrents locaux soient compétitifs en Asie. La crédibilité des travailleurs et la qualité des produits ne sont pas seulement certifiées et reconnues à l'échelle nationale, mais elles devraient respecter les normes et les qualifications mondiales. Pendant ce temps, le personnel d'experts du gouvernement, droit et politique, Teresia Sormin, lors de l'ouverture de cet événement, espère que grâce à cette activité, les qualifications d'éducation et de formation dans chaque pays sont bien conformées au cadre de l'ASEAN Qualification de Référence, AQRF. On espère que cet accord devrait minimiser les lacunes pouvant survenir en raison des différences de niveau de qualification dans chaque pays de l'ASEAN. Et puis, cet accord a été appliqué bénévolement par les États membres de l'ASEAN, étant prêts à traverser la norme de référence des compétences et qualifications dans certains domaines de travail.
Teresia Sormine a également déclaré que la certification devrait contribuer à réduire le chômage et la pauvreté à Lampung et peut améliorer la position de négociation des travailleurs locaux pour que la mise en œuvre des MEA pour améliorer les conditions de vie et le bien-être de la communauté. Chers auditeurs et auditeurs, c'était la mise au point.
Le 23 août 2017, l'ambassade de Russie pour l'Indonésie a tenu une conférence de presse pour discuter de diverses questions bilatérales entre la Russie et l'Indonésie. En plus des principales questions de coopération entre les deux pays, dans la conférence, on a également discuté des questions internationales. La conférence a été dirigée par l'ambassadeur de Russie en Indonésie. L'un des sujets discutés concernant les essais d'armes nucléaires par la Corée du Nord récemment. L'ambassadeur de Russie en Indonésie, Michael Yurievich Galuzan, condamne fermement les essais d'armes nucléaires car ils peuvent déclencher une intervention pour la résolution de la paix mondiale initiée par le Conseil de sécurité des Nations Unies. Notre position est très claire et très responsable. Tout d'abord, nous condamnons fermement les essais de missiles et les essais nucléaires de la Corée du Nord. Et ces activités doivent être résiliées conformément aux résolutions du Conseil de sécurité des Nations Unies. Selon Michael Galuzan, ce problème peut être une provocation des tensions militaires qui conduira à un conflit international. La Russie critique les armes nucléaires de la Corée du Nord, mais elle a l'initiative de faire une approche diplomatique afin de prévenir des choses qui peuvent provoquer des conflits inutiles. Le ministre de la Recherche, Technologie et Enseignement supérieur, M. Nasir, avec un certain nombre de praticiens de l'éducation qui sont regroupés de l'Assemblée du recteur des universités d'État, le Forum du recteur indonésien et de l'Association des universités privées d'Indonésie, mercredi après-midi, ont rencontré le président Joko Widodo au Palais d'État de Jakarta. Après avoir rencontré le président, le ministre M. Nasir a affirmé que cette réunion était faite liée aux efforts à développer l'enseignement supérieur en Indonésie et à anticiper le développement de l'éducation. Lors de la réunion, le ministre Nasir a déclaré « Le président Joko Widodo a donné des directives pour que le monde de l'éducation de l'Indonésie puisse répondre à tous les développements. » Selon lui, le monde de l'éducation en Indonésie doit subir des changements fondamentaux, y compris dans les domaines de l'enseignement et de l'apprentissage, de l'octroi de licence et de la réglementation du monde éducatif. Monsieur le Président a donné une direction, à savoir, nous voulons répondre à un changement rapide. Les collègues ne peuvent plus regarder nos affaires comme d'habitude, si bien que nous devons répondre plus rapidement les développements dans le monde avec les changements dès que possible. Donc, quel type de processus d'éducation, quel genre de processus d'octroi de licence, c'est ce que nous devons faire, la réforme. Le ministre de la Recherche, la Technologie et l'Enseignement supérieur, M. Nasir, a déclaré, bien que sa partie ait mis en place certains changements dans le monde de l'éducation en Indonésie, mais selon lui, il devrait être fait plus profondeur dans les régions de l'Indonésie. M. Nasir a mentionné que l'une des choses qui ont mis l'accent sur la conversation est le développement des programmes d'études dans les universités indonésiennes. Selon lui, les universités indonésiennes aujourd'hui devraient être capables de développer le monde de l'éducation en organisant des programmes d'études qui peuvent répondre aux défis de l'ère actuelle, en plus de l'enseignement professionnel qui a fonctionné. Le ministre indonésien de la Jeunesse et des Sports, Imam Nahrawi, a rencontré le président indonésien Joko Widodo au Palais d'État mercredi le 23 août. Cette réunion a été soumise par le ministre Imam Nahrawi pour rapporter le développement de la participation de l'Indonésie aux Jeux d'Asie du Sud-Est 2017 en Malaisie. Au cours de la réunion, le ministre Imam Nahrawi a transmis les réalisations qui ont été atteintes par les athlètes indonésiens dans les Jeux d'Asie du Sud-Est jusqu'au cinquième jour depuis le début du 19 août. Jusqu'au cinquième jour, l'Indonésie occupe la cinquième position de la médaille de SEA Games avec 15 médailles d'or, 16 médailles d'argent et 28 médailles de bronze. En ce qui concerne ces réalisations, Selon le ministre Imam Nahrawi, le président a donné son soutien et sa motivation à chaque athlète pour s'efforcer d'obtenir la victoire dans tous les sports. Le président a donné son soutien et sa motivation avant que tous les athlètes d'Indonésie ne soient pas abandonnés et puissent faire mieux pour être les meilleurs. La médaille doit être réalisée d'une manière équitable et sportive, honnête et pleine de vigueur pour le drapeau rouge et blanc. Le ministre Imam Nahrawi a affirmé la réalisation du succès des athlètes indonésiens dans SEA Games 2017. La Malaisie est pleine de surprises. La surprise provient de plusieurs sports qui ont produit une médaille au-delà de la cible définie. La même surprise provenait également des sports qui sont ciblés auparavant à atteindre le maximum de points, mais ils ont échoué avec la réalisation de la médaille d'argent, comme dans les sports d'athlétisme. Mercredi, le 23 août 2017, l'ambassadeur de Russie-Indonésie, Michael Yurevich Galuzan, a tenu une conférence de presse à l'ambassade de Russie, Jakarta. À cette occasion, on a discuté des coopérations bilatérales entre la Russie et l'Indonésie, y compris des questions mondiales actuelles. En marge de la discussion des relations bilatérales, Michael Galuzan a dit que le président indonésien Joko Widodo a envoyé une invitation au président russe Vladimir Poutine via la ministre indonésienne des Affaires étrangères Retno Marsudi pour faire une visite d'État afin de discuter des relations russo-indonésiennes. Selon Michael Galuzan, la visite produira des accords bilatéraux liés à quelques questions telles que l'économie, la science, la technologie, la culture, la défense, la sécurité et humanitaire. Il souhaite que l'Indonésie puisse bien préparer cette visite pour obtenir le succès de la visite et les réunions bilatérales. La visite de haut niveau a besoin de bons préparatifs et profonds. Et nous espérons que la préparation peut être faite ensemble avec nos collègues et amis en Indonésie. J'espère que nous pouvons présenter un programme très utile, très important et très promoteur pour la réunion de nos présidents. Selon Michael Yurevich Galuzan, jusqu'à aujourd'hui, il ne peut pas dire la certitude de la date de la visite du président Vladimir Poutine en Indonésie, mais il a assuré à toutes les parties que la visite produira des percées et des accords qui profitera aux deux pays. Le ministre du Commerce de la République d'Indonésie, Enggar Tias Tolukita, a déclaré que le gouvernement de l'Inde a augmenté récemment la taxe d'importation sur l'exportation de l'huile de palme crude de l'Indonésie jusqu'à 100%. Ce pays a augmenté la taxe d'importation de la marchandise de 7,5% à 15%. Après l'ouverture du forum de consultation technique tenu mercredi le 23 août 2017 au ministère du Commerce, il expliquait que l'Indonésie jouit un grand excédent de commerce avec l'Inde. C'est pourquoi sa partie serait très prudente de répondre à l'augmentation de la taxe d'importation. Une réunion avec le ministère indien des industries d'alimentation transformée, Harsimrat Kaur Badal, mercredi le 23 août 2017, vise à faire valoir une objection à l'égard de la politique du gouvernement indien.
Nanti kan ada menteri India datang.
Plus tard, il y aura le ministre indien des affaires alimentaires à venir. Nous parlons, plus tard, nous transmettrons nos objections et leurs efforts dans le but de protéger le produit et nous devons faire l'approchement. Enggar Tias Tolukita a expliqué, l'Indonésie a demandé que la taxe de l'exportation revienne à sa valeur initiale. La valeur du commerce de l'Indonésie avec l'Inde de janvier à mai 2017 soit 7,68 milliards de dollars en hausse de, par rapport à la même période l'année dernière de 4,82 milliards de dollars américains. De janvier à mai 2017, les exportations de l'Indonésie vers l'Inde s'élèvent à 5,95 milliards de dollars américains et l'importation d'1,73 milliards de dollars américains. Le secteur commercial de l'Indonésie s'améliore chaque année. Le directeur général du développement des exportations nationales du ministère du Commerce, Arlinda, a déclaré que les exportations non pétrolières et gazières de l'Indonésie au premier semestre de 2007 ont augmenté de 5,6% par rapport à la même période de l'année précédente. à l'ouverture du forum de consultation technique tenu au ministère du Commerce Jakarta le mercredi 23 août 2017, Arlinda expliquait que la croissance était influencée par la performance de l'économie mondiale, notamment les pays partenaires du commerce indonésien. De plus, à travers diverses politiques, le gouvernement augmente toujours la compétitivité, la diversification du marché et les produits d'exportation. Le gouvernement continue de lancer diverses coopérations pour améliorer la compétitivité des produits d'exportation et d'encourager l'augmentation de nombre d'entrepreneurs orientés vers l'exportation, entre autres par la coopération avec l'Indonesia Exim Bank ou l'institution de financement des exportations d'Indonésie. Le protocole d'accord que nous avons signé couvre la facilitation du financement des exportations nationales qui se compose de financement, des garanties ou l'assurance pour les exportateurs, les activités pour augmenter la capacité des exportateurs, les activités pour le développement et la promotion des exportations pour les exportateurs et l'essence de donner de l'information dans le cadre de la coopération du développement des exportations. Selon Arlinda, cette coopération sera réalisée par le programme de l'amélioration des exportations des petites et moyennes entreprises via la formation technique. En outre, Indonesia Exim Bank donnera également le soutien pour développer des produits d'exportation et élargir l'accès aux nouveaux marchés, notamment sur les marchés non traditionnels. Chers auditeurs, c'était le journal de la Voix de l'Indonésie à Jakarta.
Vous êtes toujours avec la Voix de l'Indonésie à Jakarta. Vous pouvez aussi nous écouter par Internet sur le site www.voi.co.id.
Écoutez des informations et les arts et cultures indonésiens dans le programme quotidien Tour de beauté en Indonésie.
Bonsoir, chers amis, merci d'écouter la voix de l'Indonésie diffusée depuis Jakarta. Voici la rubrique magazine culturel. Et aujourd'hui, nous allons vous informer sur la danse de Dundu Daki. Dans la région de Manggarai, Nusa Tenggara Est, la célébration du 72e anniversaire de l'indépendance de la République d'Indonésie est très variée. Il y a des milliers de danseurs dans la danse de Dundu Daki. Après la cérémonie du 72e anniversaire de l'indépendance de la République d'Indonésie, l'uniformité du mouvement accompagné par le son des gongs et des tambours ont hypnotisé des milliers de spectateurs qui ont regardé la danse qui a eu lieu au centre de la ville de Ruteng, la capitale de la région de Manggarai. Cette danse colossale impliquant 40 écoles du district de Langke Rembong. Les milliers de danseurs sont debout selon une formation déterminée qui suit les numéros 17, 8 et 62. Dans la langue légende de Manggarai, Dundu signifie un appel pour les femmes, notamment en provenance du sous-district de Cibal. Le salutus des femmes est Ndu et Daki. Ainsi, Dundu Daki signifie une danse typique des femmes Manggarai. Et cette danse montre aussi l'esprit et l'indépendance des gens de Manggarai, où le rythme est ajusté avec le coup de tambour. La danse de Dundu Daki est dansée par les femmes et les hommes. Les danseuses portent les gants de tissas songki de Manggarai, combinés avec le kebaya et le foulard, et aussi le bandeau Bali Belo, le châle à motif de tissu songki Mbero, ou les vêtements traditionnels de Manggarai. Les danseurs portent le sarong de songki. Les hommes doivent utiliser un mouchoir rouge symbolisant le courage et le symbole de l'amour. Les danseurs portent sapu ou dastar sur la tête. Cette danse est généralement effectuée dans la cérémonie de mariage et la cérémonie de Chongkolokap, ou le nettoyage de la maison traditionnelle, la cérémonie traditionnelle de Penti et la fête après la récolte ou la fin de l'année. Le gouvernement de la régence de Manggarai continue à conserver la danse traditionnelle Dundu Dake. Cette danse enregistrée du record Muri en 2011, tel que le record de danse Dundu Dake avec le plus grand participant qui atteint 2011 personnes et le record de la danse portant le plus grand foulard Songki qui atteint 2011 feuilles. La danse de Dundu Dake est présentée pendant environ une heure par 1500 participants pour accueillir les participants du Tour de Flores 2017, a également reçu le prix de l'Institut mondial pour la prestation indonésienne. Chers amis, c'était le magazine culturel intitulé La danse de Dundu Dake en provenance de Manggarai, Nusa Tenggara Est. Merci à tous et à bientôt.
Les couleurs, un programme sur les informations actuelles.
Chers auditeurs, nous continuons notre programme avec l'Indonésie en couleurs et encore le titre. Les étudiants de l'Université d'Indonésie ont créé un équipement de traitement des déchets de batik. Pekalongan est l'une des villes centrales de la croissance économique à Java Central. Cette ville est connue sous le nom de ville de batik parce que batik Pekalongan a un style distinctif et varié. Pekalongan est également entré dans le réseau de la ville créative de l'UNESCO dans la catégorie d'artisanat et art populaire en décembre 2014 et à la marque de ville, la ville mondiale de batik. En tant que ville de batik, bien sûr, l'industrie de batik Pekalongan se développe rapidement. Malheureusement, la croissance de l'industrie de batik Pekalongan n'a pas été accompagnée d'un bon système de traitement de déchets. Le nombre d'installations de traitement des eaux usées ou IPAL à Pekalongan n'est que 3, avec une capacité qui n'a pas été en mesure d'accueillir tous les déchets de la production de l'unité commerciale de batik. Le processus de peinture et de coloration sur le tissu produit des déchets qui ne sont pas petits et se termine par décharger le système d'eau locale qui peut certainement polluer l'environnement. Voyant cette situation, 5 étudiants de l'Université d'Indonésie, UI, collaborent pour trouver une solution. Nur Sharfan, de technique chimique, Ahmad Sobri, technique électrique, Fadila Ahmad Anindria, teknik chimik, Rickson Mauricio, teknik chimik, et Muhammad Akbar Buana, teknik bioprosesu, ont créé Plato, un outil de traitement portable de déchets de batik. Cet outil est facile à utiliser par les acteurs de l'industrie et peut dégrader les déchets de batik de manière optimale, car il utilise la technologie d'électrocoagulation et de photocatalyseur. Avec une combinaison de méthodes d'électrocoagulation et de photocatalyseur, cette unité peut traiter simultanément plusieurs déchets tels que les déchets de couleur, les déchets organiques et les déchets de métaux lourds. Plato a d'autres avantages. Il peut être utilisé mobile, interchangeable par chaque acteur professionnel dans une région sans devoir collecter le résultat de batik résultant de la station d'épuration à IPAL. Ainsi, la quantité de déchets disposés illégalement dans la rivière peut être réduite. En outre, l'eau propre qui a été traitée à partir de cette technologie peut être réutilisée dans le processus de production de batik, de sorte que l'utilisation de l'eau dans le processus de production peut nécessiter beaucoup d'économies. À l'avenir, cet outil devrait fournir un traitement alternatif des déchets de batik afin qu'il puisse être une solution aux troubles communautaires autour de la rivière. Chers auditeurs, c'est une émission clé pour ce soir. Merci de votre fidélité. À bientôt.
Nous vous rencontrons demain avec les autres couleurs sur l'Indonésie.
Couleurs du son, programme des musiques et des chansons indonésiennes.
Bonjour à tous, merci d'écouter La Voix de l'Indonésie à Jakarta. Comme d'habitude, avant de terminer cette émission, nous allons présenter des musiques indonésiennes et cette fois nous avons sélectionné de chansons pop indonésiennes chantées par le groupe musical Potret. Pour offrir notre rencontre, voici sa première chanson intitulée Terbujuk. Bonne écoute.
Kau rasakan, kau
traite un groupe musical provenant de Jakarta a été formé en 1995. Ce groupe musical se composant de 5 personnes, telles que Melly Guslo, comme chanteuse, Nikita Dompas, guitariste, Anto Hood, bassiste, Joyce Kasiman, claviériste, et Aksan Schumann, batterie. En novembre 1995, Portrait a lancé le premier album intitulé Portrait. La chanson intitulée Terbujuk est une chanson principale dans cet album. Grâce à cette chanson, son album a bien vendu à 80 000 copies. Donc, Portrait a placé la première rang dans l'industrie musicale indonésienne. 2 ans plus tard, ce groupe musical dirigé par Melly Guslo a lancé le nouvel album intitulé Portrait 2. L'album intitulé Portrait 2 a été lancé en 1997 avec son single intitulé Salah. À travers les paroles simples et faciles à écouter, la chanson Salah a attiré l'attention des amateurs de la musique pop indonésienne. Après avoir repris le succès, à travers de la chanson Salah, Portrait a lancé le deuxième single intitulé Machomblang et la troisième single intitulée Bunda. Chers auditeurs, avant de terminer notre programme, voici donc les deux dernières chansons de portrait intitulées Ma Chomblang et Bonda. Je m'appelle Nukuku Sumawati, bonne écoute et à demain.
Merci d'écouter la voix de l'Indonésie diffusée depuis Jakarta. C'était des chansons indonésiennes. Ainsi se termine l'émission pour aujourd'hui. Merci de votre fidélité. Rendez-vous demain, même heure, même fréquence. À bientôt.
Radio République Indonésia, service international, la voix d'Indonésie.
Informing, connecting, dignifying.
Radio République Indonésia, service international, la voix d'Indonésie, présente des nouvelles, des informations actuelles et des divertissements. Vous pouvez écouter notre émission tous les jours sur les fréquences ondes courtes de 15 150, 9 525 et 11 785 kHz. Le programme de l'émission en français ou écouter l'audio sur demande sur www.voi.co.id.
Envoyez vos critiques et vos suggestions à notre adresse email info@voi.co.id ou envoyez vos courriers à émission en français de la Voix d'Indonésie de la Radio République Indonésia, Jalan Medan Merdeka Barat 4S5, Jakarta. Ou PO Box 1157 Jakarta 1011 Indonésie. Vous pouvez rejoindre au Facebook Voice of Indonesia et Twitter Voice Indonesia. Merci de nous avoir écoutés. Au revoir.